Bonjour à tous, on va commencer cette séance sur l'absorption devant les quasars. Le plan de l'exposé sera d'abord que l'on va essayer de comprendre ce que sont la nature des observants, d'abord un peu d'historique, comment on les observait, parce que ça date de 50 ans à peu près, donc c'est quand même pas très jeune, mais c'est quand même contemporain, on va voir. On va essayer de décrire un peu les divers types d'absorbants. On observe des choses entre un quasar et nous. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des nuages galactiques autour des galaxies ou alors quelque chose qui n'a rien à voir avec les galaxies mais avec les filaments cosmiques. Donc on va avoir des forêts Lyman alpha dont on a déjà parlé et puis des absorbants complètement saturés. On va définir tout ce qui est derrière ce jargon-là, les raies métalliques. Et puis on va voir quelle est l'évolution avec le redshift et si on peut, notamment dans la période de réionisation, l'époque de réionisation entre 6 et 8, 10, avoir même des absorptions à 21 cm. On verra que c'est difficile, mais peut-être possible. On verra que les absorptions là, vont nous permettre peut-être de détecter des galaxies petites qui sont en dessous du seuil de détection, mais qui rayonnissent tout l'univers. Donc pourquoi on étudie ces absorptions? Parce que justement, comme on le voyait dans une vision de simulation numérique, où l'on a des filaments cosmiques, des vides, les petits points blancs, vous pouvez imaginer que ce sont les galaxies. On sait que les galaxies sont situées sur les filaments, on les voit, les galaxies, avec le redshift. Mais ce sont un petit peu comme les cerises sur le gâteau, l'essentiel est caché derrière, et on ne le voit pas, ces filaments n'émettent pas, parce qu'ils sont très diffus, et on ne les voit que par absorption. Donc on va appeler ce milieu intergalactique intergalactic medium, IGM, ça fait partie du jargon. Et si vous voyez IGM, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Et le but donc, dans ces absorptions, c'est de connaître ce milieu intergalactique, sa température, sa densité, sa colonne de densité, sa métallicité. La métallicité vient sans doute des galaxies. Les métaux se forment dans les étoiles qui vont repousser le gaz. Et on sait que la plupart de la matière n'est pas dans les galaxies. Plus de 80% de tous les baryons, la matière ordinaire, est en dehors des galaxies. Donc dans ce milieu intergalactique qu'on aimerait bien sonder et connaître justement les filaments, l'enrichissement, l'influence des filaments sur les galaxies parce que les filaments nourrissent encore les galaxies pour former des étoiles. C'est un réservoir de gaz pour former des étoiles et puis on ira jusqu'à la réionisation. Alors pour l'historique, eh bien, comme vous voyez, il faut avoir un quasar pour observer des raies d'absorption devant. Donc, qui a découvert les quasars? C'est Martin Smith en 1963. Il a eu l'idée de regarder un spectre. Alors, on connaissait des objets depuis les années 50. On avait fait des cartographies de tout le ciel en radio, 21 centimétriques, disons, pas seulement 21 cm, donc aux longueurs d'onde centimétriques. Par exemple, Cambridge avait fait un catalogue de tout le ciel. Le troisième catalogue s'appelle 3C, donc on a des tas d'objets, des centaines d'objets, et on avait des sources ponctuelles. La résolution n'étant pas très bonne, en radio on a des longueurs d'onde très grandes, donc les lobes ne sont pas très précis. On a fait quand même une corrélation avec l'optique pour voir ce que c'était, et les objets c'était des sources ponctuelles qui ressemblaient à des étoiles, donc quasi-stars, et qui sont appelées quasars par le raccourci. Et à l'époque, on n'avait pas le HST, le Hubble Space Telescope, pour aller avoir une bonne résolution dans l'espace. On ne savait pas soustraire la réponse à une source ponctuelle, vu que l'atmosphère troublait tout ça. Aujourd'hui, on sait le faire. Vous voyez que si on retire la source ponctuelle, on voit qu'il y a une galaxie derrière. Mais il faut quand même savoir que dans ce cas-là, la source ponctuelle émet 1000 fois plus que toute la galaxie, c'est-à-dire que tous les 300 milliards d'étoiles derrière. D'où, lorsqu'on a détecté ces raies d'absorption ici, il y avait toujours un débat, même Perry et al. Avec Burbidge et Burbidge, qui sont les grands réfractaires des redshifts cosmologiques, pensaient que peut-être ces raies n'étaient pas à interpréter comme des redshifts cosmologiques, donc des absorptions qui pourraient être au même niveau que les quasars. Alors pourquoi il y avait une réticence? C'est que vous voyez que ce quasar, si on le met à cette grande distance, la distance à l'époque c'était un redshift de 0,158, c'était énorme à l'époque puisqu'on avait des vitesses de quelques milliers de kilomètres, ça voudrait dire 10 000, 30 000 kilomètres. Donc Évidemment, si on le met à grande distance, on a cette énergie à trouver, mille fois plus que toutes les étoiles réunies, c'est énorme. Si on le met beaucoup plus proche, il n'y a pas de problème. D'où le grand débat qui avait eu lieu et qui s'est éteint, évidemment, parce qu'on a quand même prouvé que toutes ces raies étaient des raies d'absorbants devant le quasar. Alors, ce qui va aider ici, comme vous voyez, il y a des raies qui correspondent. On a par exemple la série de Balmer, on a aussi des doublés, comme MG2 ou C4, ils ont des doublés caractéristiques avec une distance bien connue. Donc ça permet de reconnaître une raie dans un fouillis de raies. Alors voici ce qu'on a observé donc pour 3C273. C'est quelque chose qui, pour nous maintenant, est assez proche, avec un redshift de 0,1. On voit qu'il y a un nombre de raies assez petit, finalement. Il y a des raies un petit peu partout. Mais lorsqu'on a découvert à un peu plus grand redshift, par exemple 3,6, toute cette forêt Lyman Alpha, les gens se demandaient vraiment ce qui se passait, que se passait-il dans cette partie-là où tout était un fouillis de raies, donc une forêt. Et on sait peu à peu, en 1981, il y a un papier de revue de Weimann et al. Qui privilégie l'origine de cette forêt dans les nuages sur la ligne de visée. Donc peu à peu, vous voyez que ça prend du temps à digérer, mais on a compris que tous ces redshifts-là étaient des nuages d'hydrogène entre le quasar et nous. Alors pourquoi il n'y en a pas de l'autre côté ? Eh bien, ce rayonnement est décalé vers le rouge pour les nuages qui absorbent et ne peuvent plus. Ce n'est plus la raie de l'Hillman alpha qui est nécessaire à absorber. Donc voici le schéma actuel. Hein. On a un quasar qui émet et dont le redshift nous est donné par la raie Lyman alpha, ici Lyman bêta, et vous voyez que toute la partie gauche, donc l'aile bleue, est absorbée par des nuages. Chaque raie est un nuage qui peut nous donner donc la colonne densité d'hydrogène qu'il y a sur la ligne de visée, c'est-à-dire la longueur multipliée par la densité. Donc si on connaît ces facteurs, on va pouvoir caractériser le milieu intergalactique, enfin, tous ces filaments et tous ces nuages qui sont même peut-être pas des galaxies. Il y a plusieurs types d'absorbants. On distingue donc cette forêt Lyman alpha qu'on appelle LAF. On distingue des raies qui sont très absorbées, c'est-à-dire la colonne densité est très grande, supérieure à 10 puissance 20 par centimètre carré, et ressemble à la colonne densité que l'on voit dans un disque de galaxie, un disque de galaxie où il y a beaucoup d'hydrogène atomique. On a 10 puissance 20, 10 puissance 21 centimètres carrés. Donc ici, il s'agit sans doute, on pense, qu'on s'approche d'une galaxie, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui va tomber à zéro, qui va être saturé. On l'appelle donc dimp Lyman alpha saturé, une raie Lyman alpha saturée. Et puis, il y a ce qu'on appelle limite du système Lyman. Vous savez qu'il y a Lyman alpha, Lyman bêta, et puis lorsqu'on peut ioniser l'atome, il faut 13,6 électronvolts d'énergie, ou bien la longueur d'onde correspondante de ce rayonnement, c'est 912 angstroms. Quand on arrive là, on a aussi une absorption, un petit peu comme la chute que l'on voit dans les Lyman Break galaxies. Et puis, tout un tas de raies métalliques qui peuvent être de l'autre côté, elles, puisque justement, ce ne sont pas les raies à 1210 angstroms ici, mais de l'autre côté. Donc, C4, qui est l'atome de carbone ionisé trois fois, qui est un doublé. Donc, on le voit nettement. MG2 aussi. Et tout ça nous indique qu'il y a un enrichissement du milieu intergalactique en éléments lourds. Ces éléments ne peuvent être formés que dans les étoiles. Donc c'est sans doute du rejet des étoiles par supernovae, etc. Alors, on se fait une petite idée de ce qu'est le DLA ici. Une galaxie vue par la tranche avec un bulbe. Et si la ligne de visée traverse... Alors évidemment, la section efficace est aseptique, la galaxie est aseptique, c'est le rayon au carré, en quelque sorte. Et puis, on a un halo de gaz ionisé qui vient des éjectats successifs des supernovae et des vents stellaires, complètement ionisé, qui n'est pas neutre. Donc, vous voyez que la section efficace pour passer à travers cette sphère ionisée est beaucoup plus grande. Donc, c'est beaucoup plus fréquent de trouver des raies métalliques. C'est quand même proche des galaxies, mais c'est quand même plus fréquent. Alors à chaque fois qu'on observe un DLA, c'est-à-dire on traverse une galaxie, on a une raie métallique. On le voit bien ici, hein, on est obligé de traverser le halo métallique. Par contre, on peut très bien traverser le halo métallique sans traverser la galaxie. Donc la réciproque n'est pas vraie. Donc on commence à comprendre un petit peu d'où viennent toutes ces raies Alors, il y a une correspondance, il peut y avoir plusieurs galaxies sur la ligne de visée, donc plusieurs DLA ici, plusieurs. Alors, les colonnes densité des Lyman limites sont aussi un peu plus fortes que la forêt. Alors, dans l'historique, là, que je continue à tirer le fil de l'histoire, comment on a découvert toutes ces raies et comment on a compris d'où venaient tous ces absorbants, il y a une date qui a été obtenue par Jacqueline Bergeron à l'IAP en 1986, c'est de trouver une association entre un quasar, ici c'est le quasar PKS2128, et puis une galaxie voisine. Donc c'est l'idée qu'on se fait, hein, c'est que lorsque la ligne de visée du quasar vers nous traverse le voisinage d'une galaxie, alors ça peut être un voisinage, il n'est pas très près, il est situé à 64 kiloparsecs, mais c'est quand même le halo ionisé de la galaxie, eh bien on a un absorbant métallique et le redshift de la galaxie est mesuré en faisant le spectre de la galaxie. On voit qu'il est exactement au même redshift, donc à la même distance que l'absorbant. Donc là, il y a une preuve qu'on a bien un absorbant métallique qui est dû à la galaxie proche. Donc la vision que l'on a de raies métalliques qui sont dues aux halos ionisés autour des galaxies et puis les DLA qui sont associés au disque de galaxies, peut-être externe, mais au disque, semble se vérifier. Alors, peu à peu, on a utilisé des télescopes plus grands, par exemple le Keck qui fait 10 mètres de diamètre, qui était plus sensible et qui pouvait faire les spectres avec une résolution spectrale beaucoup plus grande, 7,9. Et on s'aperçoit, en faisant le zoom d'une petite partie de cette forêt-là, qu'il y a une très très grande richesse, même avec un spectre à une dimension, il y a une grande richesse d'éléments. Ici, on a 466 raies de Lyman alpha et 73 raies métalliques. Donc, ce qui est indiqué à chaque raie, c'est la colonne densité d'hydrogène qu'il y a devant cette ligne de visée, la dispersion de vitesse. Et on voit que ce sont des raies relativement étroites. On peut avoir une grande quantité, une grande statistique, si on a plusieurs quasars. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de quasars. Donc on voit qu'on va pouvoir échantillonner avec une grande statistique tout ce milieu intergalactique. Alors la largeur de raie, il y a plusieurs choses. Si on a une raie qui est près du quasar, elle va être énorme. Par exemple, on sait qu'un quasar, c'est un trou noir qu'il y a dans chaque galaxie. Et ce trou noir est entouré d'un disque d'accrétion, la matière qui tombe sur le trou noir et qui donne le noyau actif. Et évidemment, lorsqu'on est très près du trou noir, le disque d'accrétion, c'est la taille d'un système solaire, par exemple, 1000 AU. Et quand on est très très près, évidemment, la vitesse va être énorme, 10 000 km par seconde de rotation. Donc ce gaz va tourner, on va avoir des raies larges, ce qu'on appelle le broad line region ici. Et il est possible que ça se trouve aussi en absorption. Et parfois, on a du gaz qui est éjecté par le disque d'accrétion et on a ce qu'on appelle le broad absorption line, quelque chose qui est très très large, 10 000 km par seconde, et qui a un profil qu'on appelle P-Cygni. Ce profil P-Cygni, il tient son nom d'une étoile qui était dans la constellation du Cygne, étoile P, et qui est une étoile de Wolf-Rayet qui rejette beaucoup de masse. Et donc le gaz qui est vu en absorption par l'observateur et qui est rejeté vers l'observateur, il a une vitesse bleue, il est décalé vers le bleu, donc ici, et puis on a l'émission du quasar au centre. Donc on a ce profil en P-Cygni typique, absorption-émission, que l'on voit par exemple dans tout près, lorsqu'on a un absorbant tout près du quasar. Mais si on n'est plus du tout tout près, qu'on est dans un nuage qui n'a rien à voir avec le quasar, donc très loin, un autre redshift, à ce moment-là, eh bien, ce sont des nuages très froids qui ne sont pas encore concentrés dans un puits de potentiel, qui n'ont pas de galaxie. Donc la dispersion de vitesse est très petite, elle est thermique. Ici, même si c'est à 10 puissance 4K, on a 12 km par seconde. Donc vous voyez un peu la finesse des raies, 30 km par seconde. Même les raies métalliques sont à peu près de ce type-là. Le système métallique, donc, il y en a beaucoup, comme vous voyez ici sur cet exemple. Il peut y avoir du silicium, du carbone, de l'oxygène, du magnésium, etc., à des redshifts toujours inférieurs, évidemment, aux raies d'émission. Et avec tout ça, on peut connaître un petit peu l'éjection et la nature de ces rejets. Donc la nature un peu des étoiles, en fonction du redshift, on aura la nature de ces étoiles. Par exemple, ici, on a le silicium. On sait que les éléments qu'on appelle alpha, qui sont l'oxygène, le magnésium, etc., sont formés très vite dans les supernovae de type 2, c'est-à-dire l'explosion d'une supernovae. Et si on reforme des étoiles à partir de ce gaz, on aura un enrichissement en particules alpha, ce qui, on le voit, enfin, on va voir tout à l'heure. Alors, voici un exemple de ces systèmes associés à des raies métalliques. Ici, on a un quasar, Z égale 9, et Schedel et Tal ont permis de voir. Alors, très souvent, les galaxies sont agglomérées, elles sont grégaires, elles sont dans des amas et des groupes. Là, on a le cas ici, hein, même à 0,6, qui n'a rien à voir avec le quasar. On a un petit groupe de galaxies, et il a été possible de détecter les 6 galaxies qui étaient responsables des 6 systèmes métalliques. Donc là, maintenant, c'est l'association qu'avait fait Jacqueline Bergeron pour la première fois est faite régulièrement. Aujourd'hui, on arrive à avoir les galaxies associées au système, ce qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans les galaxies. Donc, en faisant une somme de toutes les données métalliques en fonction du redshift, vous voyez qu'on a quelque chose qui décroît, ce qui est rassurant. C'est-à-dire qu'au début de l'univers, la richesse en métaux du milieu intergalactique est plus petite, mais avec une dispersion très grande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités, certains endroits sont plus enrichis que d'autres, etc. En moyenne, ça décroît. Et on a remarqué ce fameux rapport alpha sur FE, qui est les éléments comme l'oxygène et le silicium, qui sont formés très très vite au début de l'univers, ils sont enrichis dans ces éléments, comme ce qui se passe dans le halo de la Voie lactée. On pense que le halo de la Voie lactée est fait d'étoiles qui ont formé leurs éléments et ont été formés dans du gaz enrichi très tôt dans l'univers, lorsque le rapport alpha sur FE était très grand. Aujourd'hui, le fer se forme de façon secondaire. Il faut attendre des milliards d'années pour avoir le fer. Donc ça nous donne un peu un âge de l'histoire de la formation d'étoiles. Pour avoir une petite idée de ce qui se passe, on compare avec les observations. On connaît bien dans les simulations cosmologiques ce qui se passe. Ici, vous avez un filament. En rouge, la température, la formation d'étoiles rejette du gaz ionisé, ça chauffe beaucoup le filament. En bleu, vous avez la densité du gaz froid. Et puis en vert, les rejets métalliques dus aux étoiles. Ici, vous avez une galaxie en bleu. Et donc, on voit que, évidemment, les petites images d'un halo métallique qui est tout à fait sphérique et tout à fait simplificatrice, le halo va être tout à fait désordonné, mais en moyenne, c'est ça. On a une distance caractéristique, peut-être 50 kiloparsec, où le rejet des étoiles peut aller enrichir le milieu des filaments, le milieu intergalactique. Donc, en fonction de redshift, alors on voit un exemple à z égale 0, par exemple M82, on voit nettement, comme c'est une galaxie très proche, compagne de Messier 81, on voit la galaxie vue par la tranche et on voit tout le rejet des étoiles en gaz ionisé, H-alpha et aussi en rayons X. Donc c'est ce phénomène-là qui enrichit tout le milieu et on le voit ici. Alors vous avez en fonction du redshift le nombre d'absorbants. Ici, c'est les absorbants, ils sont très peu nombreux, bien sûr, qui sont lorsque la ligne de visée coupe une galaxie, donc les raies saturées, DLA, ils décroissent en fonction du redshift. Il y a moins de gaz, donc les galaxies ont plus de gaz autrefois. Évidemment, elles forment des étoiles, donc on s'attend à ce qu'elles aient moins de gaz. De même, les systèmes Lyman-Limit, qui sont du gaz hydrogène H1, décroissent. Et puis, les éléments lourds croissent. Ce qui est logique aussi, puisqu'on rejette de plus en plus d'éléments lourds dans le milieu. Alors, les fameuses balles, là, qui sont les raies d'absorption très larges, qui sont tout près des quasars, eh bien, elles sont relativement fréquentes. Dans 15% des quasars, on voit ces absorbants très larges. Et on voit ces profils, ces fameux profils P-sigmi, qui sont dus au fait qu'on regarde uniquement en absorption ce qui est devant le quasar, donc ce qui vient vers vous. Le derrière, en rouge, on ne le voit pas. Donc on ne voit que la raie Lyman alpha, et vous voyez qu'on peut avoir des absorptions qui sont complètement saturées, donc énormément de rejets. Alors cette saturation, elle est calculée, on peut croître, on peut calculer la courbe de croissance ici. On a ici deux calculs, ils sont très similaires, en fait il s'agit de l'épaisseur optique de la raie Lyman alpha, lorsque la colonne densité qui absorbe est 10 puissance 20 par centimètre carré, ou bien 10 puissance 21, la courbe suivante est 5 10 puissance 21. Vous voyez que la courbe s'étale, elle, évidemment, elle caresse le zéro en bas, on ne peut pas aller plus bas, mais on sature ici et on élargit la raie. Un peu la même chose ici en bêta, mais vous voyez que la largeur en angström ici est 20 angström et ici 4 angström. L'Lyman bêta est beaucoup plus faible, donc s'élargit moins et en angström. Donc, ce qu'on mesure dans ces raies d'absorption sont la largeur équivalente, c'est-à-dire la quantité qui est absorbée divisée par le continuum, ce qui est ce qui normalise exactement ce qu'il faut, parce que si vous aviez un quasar deux fois plus puissant, évidemment, il faut normaliser à la puissance du quasar. Donc vous avez trois zones ici, trois phases. Soit vous avez une raie qui n'est pas optiquement épaisse, donc quelque chose qui est linéaire et qui est proportionnel à la quantité d'atomes que vous avez sur la ligne de visée, donc la colonne densité, épaisseur optique très faible devant 1. Et puis on peut montrer que lorsqu'on a une épaisseur optique intermédiaire, vous avez un comportement logarithmique en fonction de n, et puis finalement la saturation, ça va être racine de n. Donc toute cette forme-là, on a besoin de le savoir si on veut calculer la colonne densité de H1 en fonction de la forme de la raie. Alors pourquoi c'est nécessaire ? Parce que lorsque vous avez un DLA comme ça, absorbé, vous avez toujours une raie métallique, comme on a vu, et si vous voulez connaître l'abondance des métaux, il faut avoir l'abondance relative par rapport à l'hydrogène. Donc il faut absolument bien connaître l'abondance d'hydrogène à chaque raie métallique. Alors ces densités de colonnes-là, qu'on obtient par ces méthodes-là, sont, lorsque vous avez une raie étroite, par exemple la raie Lyman-alpha, c'est toujours inférieur à 10 puissance 17 par centimètre carré, donc des colonnes faibles, des nuages, ce n'est pas du tout des galaxies, c'est des nuages intergalactiques. La métallicité est très faible. Comment on la mesure ? En fait, on n'a pas de raie métallique pour la mesurer, mais on peut empiler toutes les raies. On a plein de raies ici, et on sait que les raies métalliques devraient se trouver, par exemple, ici, à une certaine fréquence. On va empiler tous les signaux et on va pouvoir avoir un signal métallique. On sait que c'est 10-2, donc c'est quelque chose qui n'est pas zéro. Donc on pourrait penser qu'il arrive des nuages intergalactiques qui ne sont jamais enrichis, mais non. Ils sont toujours un petit peu enrichis, il y a toujours un mélange entre toutes les rejets. On a ensuite des systèmes Lyman-Limit qui sont un tout petit peu plus importants en colonne densité. Et puis, on a une coupure ici, et puis on a ces fameux saturés, les systèmes saturés, qui sont supérieurs à 10 puissance 20, donc typiques de bords de galaxies ou même de galaxies. Et on peut mesurer avec la forme de la courbe la colonne densité et mesure ainsi la métallicité en regardant les raies métalliques. Donc 10% de la métallicité solaire, ce qui est tout à fait compatible avec ce qu'on sait des bords de galaxies. Évidemment, en centre de la galaxie, on pourrait avoir métallicité solaire, mais on n'a que très rarement une ligne de visée qui traverse le centre de la galaxie parce que c'est tout petit et la proportionnalité étant la taille au carré. Alors voici justement avec la probabilité de ces raies qui est au rayon au carré, on peut savoir quelle est la taille de ces objets. Un DLA, ça va jusqu'à 20 kiloparsec. MG2 et Lyman-Limit, ça irait jusqu'à 40. Et puis le C4, c'est les halos les plus ionisés, un peu autour, ça peut aller jusqu'à 70 kiloparsec. On a aussi un nombre d'absorbants en fonction de la colonne densité. Et cette courbe a été obtenue. Un des premiers, c'est Story, Lombardi et Wolfe en 2000, il y en a d'autres. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est une loi de puissance, donc quelque chose qui est autosimilaire. Toute cette partie-là, inférieure à 10 puissance 17, c'est la forêt de Lyman, donc quelque chose qui est très nombreux en nombre, mais assez faible en colonne densité. Et puis, on a les systèmes intermédiaires et enfin les systèmes saturés. Alors, on s'arrête à 10 puissance 22, qui est un disque de galaxie en H1. Il faut savoir qu'au-delà, on peut trouver des absorbants, mais cette fois, ils sont moléculaires. On peut aller à 10 puissance 23, 10 puissance 24, mais ils sont très, très rares, puisqu'il faut que la ligne de visée du quasar tombe exactement dans les quelques kiloparsecs centraux. On connaît moins d'une dizaine d'absorbants de ce côté-là. Alors ici, une version un petit peu plus récente, qui ne va pas aussi loin en saturation, mais qui montre bien que il y a non seulement des Lyman-limites, mais aussi des Lyman-limites partielles, intermédiaires. Donc on peut raffiner entre les colonnes densité ici. Et on peut trouver une loi en loi de puissance en caractérisant la loi de puissance. Alors cette forme des raies résonantes, elle est une forme, un profil de Voigt, qui était un chercheur qui l'avait trouvé déjà dès le 19e siècle, une combinaison linéaire entre une gaussienne au centre et une lorentzienne au bord. Alors pourquoi lorentzienne et gaussienne ? Au centre, on a un milieu qui est par exemple optiquement mince comme la Riemann alpha. Et s'il y a des vitesses Doppler à l'intérieur, on a une agitation brownienne. Et cette vitesse est typiquement une maxwellienne, hein, une gaussienne ici, avec la vitesse au carré sur la température. Donc ça, c'est bien connu, c'est pour toutes les raies, même dans les galaxies en émission. Et puis, lorsqu'on sature, on va avoir un phénomène de résonance de la Riemann alpha, qui est une raie résonance. Et on peut prendre exactement une analogie avec n'importe quel oscillateur harmonique. Par exemple, on a un ressort, un oscillateur harmonique standard, simplifié, et on va forcer cet oscillateur qui a une fréquence oméga 0, donc la dérivée seconde, l'accélération, qui est une fonction de la vitesse avec un certain facteur de frottement, et puis la force de rappel qui donne la fréquence de résonance, et le forçage. Vous voyez qu'on force à oméga qui est très voisin d'oméga 0, c'est exactement la même chose pour l'arrêt. On ne va pas être exactement dans l'arrêt, mais à côté de l'arrêt. Et on va avoir un photon qui force un peu l'atome à résonner à sa fréquence propre, un tout petit peu à côté. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez résoudre cette équation et vous avez ce fameux facteur-là qui a la forme d'une Lorentzienne avec oméga moins oméga 2 au carré. Donc, c'est exactement ce qu'on obtient. Cette raie de Riemann alpha est une raie résonante et vous pouvez démontrer que la forme attendue est une Lorentzienne. Donc ça permet de mieux comprendre la forme des raies et d'en déduire la colonne densité pour les raies lorsqu'elles sont très très saturées. Comme par exemple ici, vous avez plusieurs raies saturées. Alors ici, on voit bien que le fit est très bon. Parfois, il n'est pas facile de ne pas se tromper vu qu'on est au milieu de tout un tas de forêts de Riemann alpha. Ici, ça peut être assez important et on peut confondre avec une raie saturée, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut avoir beaucoup de résolution en vitesse pour ne pas confondre plusieurs raies de Riemann alpha avec une raie saturée. Mais lorsqu'on est sur ce genre de saturation, donc on est sûr d'avoir une forte colonne densité. Donc cette simulation de raie DLA hein, saturée a été faite par exemple beaucoup de gens, mais j'en prends un travail récent. Car ça nous permet de mieux connaître, en fonction du redshift, la qualité des absorbants et donc des galaxies. Donc ici, vous voyez qu'on peut comparer ce qui est observé avec des modèles. Donc il y a deux modèles dans ce travail ici, le SIMBA, bon, on va l'appeler SIMBA, donc des modèles cosmologiques qui traitent un petit peu la formation des galaxies avec toutes leurs recettes, formation d'étoiles et rejet de gaz, avec aussi des trous noirs qui ont un feedback, donc rejet de gaz. Et ce rejet est très important pour comprendre exactement la métallicité des rejets, la métallicité du milieu intergalactique. Et dans ce modèle-là, il avait mis les efforts sur les recettes de formation d'étoiles. Par contre, le fond de UV, le fond diffus de rayonnement UV, était homogène et constant et égal à celui qu'on connaît par Hart et Madaw en 2012, par exemple. Et le deuxième avait plutôt porté ses efforts sur un transfert radiatif pour mieux connaître ce rayonnement UV de fond, qui peut-être a une grande importance pour les systèmes d'absorbants. Donc ils ont traité le transfert radiatif et pour essayer d'avoir ce facteur. Alors, lequel marche le mieux ? Eh bien, peut-être en rouge, vous avez l'accord avec les données. Donc ici, vous avez tout un tas de points de données, dont par exemple notre conférencier aura des données ici tout à l'heure. Ici, vous avez le nombre d'absorbants multiplié par la colonne densité. Donc ici, il s'agit de ce qui gagne en fait en masse, en colonne densité en fait. Et donc, on voit bien que ce sont les petits systèmes qui ont le plus d'importance, non seulement avec leur nombre, mais aussi avec leur colonne densité. Et le modèle ici le reproduit très très mal. Enfin, très mal. N'a pas du tout l'accord qu'à l'autre en rouge ici. Et puis, lorsqu'on regarde, alors ça c'est très assez important, c'est la quantité de la densité d'hydrogène atomique, oméga, normaliser la densité critique. On donne toujours les densités de l'univers en oméga. On a par exemple, on sait 5% de baryon. Ici, on a 10-3, donc le gaz H1 est une contribution assez faible de tous les baryons de l'univers. Et en fonction du redshift, ça n'a pas l'air d'évoluer beaucoup, enfin, sauf le vert, là, qui est une observation. Vous voyez, les barres d'erreur sont assez grandes, et les modèles aussi, d'ailleurs, sont reproduisent avec un certain écart les observations. Alors, ce que les performances du modèle peuvent être jugées là-dessus, ici on voit les observations du taux d'ionisation des milieux intergalactiques et la façon dont les deux modèles l'approchent. On voit quand même que le modèle rouge qui met son effort sur le fond UV est quand même meilleur, et puis l'autre prend un fond UV homogène. Mais finalement, ce n'est pas si faux ici, le bleu est quand même pas mal. Et lorsqu'on regarde le nombre de colonnes densité ici, on voit en fonction du redshift que l'évolution, mais là on trouve la même chose, que le bleu est toujours plus faible d'un facteur 2 au moins que le rouge, et les barres d'erreur sont encore assez grandes pour qu'on ne soit pas trop contraint. Donc dans l'avenir, lorsqu'on aura un peu plus de sensibilité et de statistiques pour contraindre ces valeurs, on pourra en déduire quelque chose sur la physique des galaxies, la façon dont elles rejettent leurs métaux, la façon dont elles ionisent le milieu intergalactique, etc. Donc tout ça, c'est important, mais pour l'instant, c'est encore assez relativement peu contraint. Mais les observations quand même de DELA pourraient trancher parmi les modèles. Alors, on a vu que oméga de gaz H1 était assez faible. Ici, voici une estimation avec seulement les DLA, c'est-à-dire les systèmes saturés. Certains se sont interrogés pour savoir s'il y avait une contribution de systèmes qui n'étaient pas complètement saturés, ce qu'on appelle sous-DLA, hein, 10 puissance 19 à 10 puissance 20. Au-delà de 10 puissance 20, c'est saturé. Eh bien, finalement, ça contribue, mais c'est quand même assez négligeable envers les DLA, c'est-à-dire les lignes de visée qui traversent vraiment les galaxies. Donc peut-être qu'on peut se contenter de prendre les DLA pour avoir une idée de l'évolution de la densité de gaz en fonction du redshift. Alors, ce qui est peut-être surprenant dans un tel diagramme, c'est que la densité n'a pas l'air d'évoluer. Elle a l'air d'être à peu près constante, alors qu'on s'attendrait à ce que le gaz soit progressivement consumé en étoiles. Alors, ce qui se passe peut-être, c'est que vous avez énormément de baryons dans les filaments. Ces filaments sont toujours là pour réalimenter les galaxies au fur et à mesure qu'elles forment des étoiles. On a toujours autant de gaz dans le milieu intergalactique. Alors, est-ce qu'on sait où sont tous ces baryons, ces fameux baryons? On a vu que plus de 80% des baryons de la matière ordinaire est dans le milieu intergalactique. On n'a pas tout identifié encore. On a, dans les galaxies, on sait qu'il y a à peu près 6% de tous les baryons qui sont en étoiles. On a à peu près 1% en gaz. On a les amas de galaxies. Les amas de galaxies, c'est quelque chose d'un peu plus clair, puisque dans les amas très riches, le gaz chaud qui est émis de rayons X est vraiment la partie la plus importante du gaz. Dans l'amas de coma, par exemple, vous avez 10 fois plus de masse de gaz dans le gaz chaud que dans les galaxies. Alors on pourrait dire, oh là là, on a tous les baryons. En fait, les amas, c'est quand même une faible fraction de tout l'univers. Donc ça ne résout pas ce problème. Et puis, dans la forêt Lyman alpha, on a quand même pas mal de baryons, parce que le gaz, en majeure partie, il est quand même ionisé, donc on peut extrapoler. Et dans les simulations, par exemple, ça c'est une simulation de Dave et al., simulation cosmologique, on s'attend à ce que, au-delà de Z égale 2 ou 3, tous les baryons sont dans cette forêt Lyman alpha, ce qui est à peu près vrai pour Z égale 3 dans les observations. Le gros problème, c'est qu'on n'arrive plus à les retrouver, ces baryons, à Z égale 0 aujourd'hui. Lyman alpha ne comble pas tous les baryons qui nous manquent. Il se pourrait, là aussi, il y en a des amas, il y en a des galaxies, il se pourrait qu'une grande partie soit sous forme d'un gaz très chaud, ce qu'on appelle warm hot, c'est-à-dire entre très chaud et très tiède. Alors, s'il était très chaud, on le verrait en rayons X, s'il était très tiède, on le verrait peut-être en H alpha. Donc, ici, on est à une gamme de température où on s'attendrait à le voir peut-être dans les raies d'oxygène ionisés 5 fois. On ne les a pas vraiment identifiés, donc il y a quand même encore de l'inconnu. Et donc, on espère, avec les absorbants, que ce sondage du milieu intergalactique va nous dire où sont tous ces baryons qu'on n'a pas encore complètement identifiés. Donc, lorsqu'on compare modèle et observation, on va aussi un petit peu au-delà. Z égale 5, on sait que c'est la fin de la réionisation. Donc, que se passe-t-il dans la réionisation? On a des épaisseurs optiques en Lyman alpha, le taux efficace, qui sont en rouge, là, les points. Ça semble être très, très, très dispersé. Et puis les modèles de réionisation, Kulkarni et al., sont la bande bleue ici. Ici, c'est taux F en fonction du redshift. On peut le mettre aussi de façon différente. La probabilité de trouver une épaisseur optique F plus petite qu'une certaine valeur en fonction du redshift. Alors quand on est à Z égale 5, cette probabilité de trouver une petite taux F est grande. Pourquoi ? Parce que le milieu est tout rayonisé, donc il y a très peu de gaz neutre. Et puis au fur et à mesure qu'on rentre dans l'époque de rayonisation, le milieu intergalactique va devenir complètement neutre et donc la probabilité de trouver une faible épaisseur optique va être très petite. Donc vous voyez, tout ça, c'est prédit par le modèle. Est-ce que c'est confirmé par les observations en rouge ? Bon, pour l'instant, c'est assez diffus. Alors pourquoi c'est très dispersé ? Eh bien, simplement parce que la rayonisation est très, très, très irrégulière. Vous voyez un petit peu la simulation de un cône, disons, une partie de l'univers. Ici, vous avez une époque, 650 millions après le Big Bang, ici 800 millions, donc le Big Bang est ici. Au début, tout est neutre. Et puis ici, vous avez la fraction d'hydrogène neutre. En rouge, vous avez toutes les parties qui sont encore neutres. Et en bleu, celles qui sont ionisées. Donc vous voyez qu'à peu près ici, on va terminer la période de rayonisation. La température, elle va suivre exactement les périodes neutres. En bleu, vous avez la température faible qui correspond aux zones neutres. Et le taux de ionisation, qui est en effet très faible lorsque c'est neutre et puis ensuite très fort dans les périodes ionisées. Donc ça, on comprend à peu près. Et on voit que la taille de ces régions, on avait déjà parlé dans la première séance des rayons de Sturmgren, qui étaient très grands autour d'un quasar, des mégaparsecs. Ici, c'est peut-être 10 mégaparsecs parce qu'il y a énormes structures qui rayonisent des grandes parties. D'où la grande dispersion de ces valeurs. Alors, pour obtenir cet accord avec les observations, Kulkarni et al. Ont dû essayer de savoir quel était le taux de formation d'étoiles. Il y a d'abord en vert les AGN, et on a vu que les trous noirs n'étaient pas une partie dominante dans la rayonisation de l'univers. On le retrouve ici. Ici, c'est le taux de d'ionisation en fonction du redshift. Donc, ce qui est dû aux AGN, ce qui est dû à la formation d'étoiles, mais qui est observé, donc les étoiles des galaxies qui font partie de la courbe de Madaw, donc l'histoire de la formation d'étoiles, mais des galaxies assez grosses pour être vues. Et puis finalement, on est obligé, dans le modèle en bleu, supposer qu'il y a toute une grande partie de galaxies qui ne sont pas vues, qui sont en dessous du seuil de détection, mais qui sont nécessaires pour rayonniser l'univers. Donc il y en a un certain nombre dans cette partie de rayonisation. Donc c'est ça qu'on cherche, où sont ces galaxies qui rayonnisent l'univers et que l'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas assez sensible, surtout à grand redshift. Alors peut-être qu'on en verra beaucoup plus avec le James Webb télescope, qui va bientôt être lancé, on l'espère. Mais pour l'instant, on ne les voit pas. Donc on va voir, est-ce qu'avec les absorbants, on va pouvoir déduire quelque chose sur ces galaxies, on va le voir tout à l'heure. Ici, on voit que le modèle reproduit bien le taux de ionisation, le facteur Q de H2 par rapport à H1, et reproduit aussi la contrainte que donne Planck sur l'épaisseur optique des photons du fond diffus micro-ondes qui sont déviés par les électrons. Donc ça nous donne une épaisseur optique qui est à peu près conservée par ce modèle. Donc, en résumé, on essaie quand même d'avoir par ce milieu intergalactique, que l'on voit encore ici avec un très beau simulation avec des vides, des filaments, des amas de galaxies, c'est ça qu'on a dans la vision, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait que les galaxies tracent. Et on aimerait donc, avec ces lignes de visée derrière les quasars, apprendre quelque chose sur peut-être les petites galaxies qui vont rayonniser l'univers. Alors on va essayer de savoir comment on fait. Alors d'abord, est-ce que ces filaments sont cohérents ? Si on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quasars de fond, on aurait presque une vision comme pour de l'émission. En fait, ce n'est pas le cas. Mais on a quand même des quasars qui sont parfois proches. Par exemple, ici, d'après Petri et al. En 2006, vous avez trois quasars distants de 3 minutes, c'est-à-dire à leur redshift, c'est à peu près 1,5 mégaparsec. Donc vous voyez, si vous avez plusieurs quasars assez proches, vous pouvez savoir si l'observateur voit dans ces lignes de visée des absorbants qui se ressemblent, pour savoir si c'est le même absorbant. Et en effet, on le voit ici, une raie qui semble corrélée dans ces trois-là. Donc là, j'en ai dessiné que deux, mais vous pouvez en voir trois. Et donc, on a un filament qui est à peu près au même redshift dans toutes les lignes de visée. Donc on peut avoir une taille, parce qu'en général, on n'a qu'une information à une dimension. Là, on a quelque chose un peu à deux dimensions. On sait que ces filaments cosmiques, Ils ont une forme de peut-être un mur ou une feuille. Et puis, on peut aussi essayer de sonder avec des approximations. Ici, l'approximation de fluctuation Gunn-Peterson, qu'on appelle MGPA, et voir si on peut contraindre avec des simulations. Alors ici, ce qui est comme approximation adoptée, c'est par exemple la température est une fonction de la densité avec une loi de puissance, ce qui est en général à peu près vrai. Ici, il faut bien s'imaginer que ces filaments sont très linéaires, ils ne sont pas... ils ne sont pas évolués, ils ne sont pas collapsés, ils ne sont pas effondrés dans une structure. Donc c'est quelque chose qui peut en effet se traiter avec une épaisseur optique qui est proportionnelle à la colonne densité de H1. Et cette colonne densité, on peut faire l'hypothèse que la réionisation, c'est-à-dire gamma NH1, est égale à la recombinaison. Et la recombinaison, c'est la densité au carré et puis une fonction de la température. Donc ça, c'est bien connu. Donc on peut trouver aussi que les épaisseurs optiques vont être une fonction de la densité du milieu volumique avec une loi de puissance bêta qui se traduit de ces approximations-là. Donc avec ces approximations, on peut faire des simulations. Ici, on a des observations et ici des simulations avec plusieurs modèles. Et on s'est aperçu que finalement, là on ne voit pas très bien, mais le pointillé était un modèle différent. Ici, le bleu et le noir sont des modèles différents. Et en fait, on ne voit aucune différence. C'est-à-dire ce qui vous donne l'aspect de la forêt Lyman alpha, c'est surtout la gravité qui forme les filaments, donc la matière noire derrière qui va former tous ces filaments, et ça ne dépendra pas beaucoup ni de la pression, ni de la température, ni du modèle cosmologique derrière. Donc c'est pour ça que les modèles arrivent à très bien reproduire toute la forêt. Alors voici un petit peu ce qu'on est en train de faire et qu'on comprend maintenant après avoir simulé les colonnes densité. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une masse de gaz qui va s'effondrer. Elle s'effondre toujours dans la direction du plus petit axe. Alors, par exemple, si c'est un sphéroïde, elle va avoir quand même un axe plus petit que les autres. Elle va s'effondrer, ça va faire comme une galette, une crêpe, si vous voulez. Et cette crêpe, on va l'appeler feuille. C'est la première structure qui s'effondre, donc elle a une densité assez faible. Et puis les deux feuilles vont ensuite se contracter dans l'autre dimension, on va avoir des filaments et puis en fait un nuage. Donc on a entre ces trois structures une progression en colonne densité car ce sont trois structures d'effondrement successifs. Donc ça ne dépend pas vraiment du modèle cosmologique ou de la densité comme je disais tout à l'heure. Et on arrive à reproduire pas mal dans le modèle lambda CDM, donc sans trop de problèmes, tout le spectre en fonction de l'échelle. Le spectre des fluctuations, ici c'est les fluctuations donc, de la forêt Lyman alpha, mais à plus grande échelle, on a toutes les galaxies, toutes les surveys de galaxies, et puis le fond cosmologique qui a des structures. Donc à grande échelle, jusqu'aux structures d'absorbants forêt Lyman alpha, le modèle lambda CDM marche pratiquement très bien. Si on a des problèmes avec le modèle, ce n'est au niveau que de la galaxie, et on en a déjà parlé à diverses reprises. Alors, il y a quand même... Lorsqu'on regarde la fonction de corrélation, il y a des effets de proximité, ça on le comprend bien. Par exemple, on est près d'un quasar et on veut savoir quelle est l'épaisseur optique, un mois de moins tôt ou bien tôt si tout est petit, près en fonction de la distance à ce quasar. Donc vous voyez que si on n'a aucun effet du quasar, c'est-à-dire aucun vent de feedback du trou noir ou bien de l'ionisation du trou noir, on va avoir quelque chose qui va piquer au centre. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs modèles de vent ici où on agrandit la taille et ce qui est mesuré c'est les points noirs et donc on a un effet de proximité. Aux proximités du quasar on a un trou qui est dû au fait que le quasar est très énergique et va ioniser tout ce qui est autour. Donc ici on reproduit le nombre d'absorbants en fonction de la distance au quasar ici et on peut ainsi mesurer avec le nombre d'absorbants une petite idée du fond UV. On a plus d'absorbants H1 si on a un fond UV plus petit, par exemple. Donc ici, 2K, par exemple, et on peut retrouver avec plusieurs quasars. Évidemment, il faut supposer que vous avez un grand nombre de quasars. Vous permettez de mesurer le flux UV du fond cosmique. Alors, il y a quand même des effets d'ionisation autour du quasar qu'on n'a pas complètement compris. On pense que peut-être il y a les quasars sont aussi un regroupement de structures. On a peut-être un amas, un groupe de galaxies, et on a peut-être un grand nombre d'émetteurs Lyman alpha qui va compenser l'émission, l'absorption par l'émission, ou alors un certain nombre de galaxies qui vont rayonner tout autour. On n'a pas encore tout à fait compris, il y a encore quelques mystères ici. C'est vrai qu'il y a des halos de Lyman alpha, hein, on en a observé, et ça on en a déjà vu dans diverses séances, qu'on appelle le Lyman alpha blobs ou LAB. Ceci a été détecté, la raie Lyman alpha, autour d'une galaxie, mais à des distances très grandes, puisque c'est quand même 300 kiloparsecs, c'est 10 fois plus grand qu'une galaxie. Donc par rapport au continuum des étoiles, c'est très très grand. Mais tout de même, ce n'est pas la dimension de proximité du quasar où on s'attendrait à trouver des mégaparsecs. Donc ça ne suffit pas, mais on a quand même une petite idée que beaucoup de galaxies peuvent ioniser autour. Et puis, pour l'instant, je laisse ce programme en suspens. Je voulais mentionner qu'on n'a pas que les quasars pour trouver des absorbants. On a aussi ce qu'on appelle les sursauts gamma, gamma ray burst en anglais, GRB. Qu'est-ce que c'est les sursauts gamma? C'est des sursauts qui durent très peu, hein, de la seconde à la minute. Alors vous allez me dire, bon, c'est trop court, on ne va jamais pouvoir trouver des absorbants. Mais si, parce que tout de même, une fois que le sursaut gamma s'est produit, il y a une émission qui reste dans les autres longueurs d'onde, radio, optique, etc., qui peut durer quelques jours. Et ce sont des émissions très, très importantes. Vous voyez que dans ce sursaut ici, on a découvert, alors celui-là était à un redshift 2,3, on a découvert 5 absorbants. Et il suffit d'une heure pour intégrer et les avoir. Donc c'est assez intéressant, non seulement parce qu'on a déjà des quasars, mais on pourrait dire que ça suffit, mais les gamma rayers sont beaucoup plus puissants et on peut les observer à des redshifts plus grands que ceux des quasars. Donc, par exemple, on a un sursaut gamma à z égale 8, alors qu'on a déjà dit que le plus grand quasar à plus grand redshift était à z égale 7,5. Donc si on veut échantillonner ces redshifts-là, on peut quand même utiliser ces sursauts gamma. Vous voyez qu'on a des sursauts courts et des sursauts longs. Les sursauts longs sont sans doute dus à la mort d'étoiles très très massives, des supernovas. Les sursauts courts peut-être à des binaires qui fusionnent. Et c'est l'avantage de ces sursauts, c'est que vous avez une rémanence pendant plusieurs jours et on peut voir des absorbants devant ces sursauts. Alors, pour les simulations des absorbants, est-ce qu'on arrive, alors il y a beaucoup de simulations, j'en ai pris une récente ici. On peut en effet se faire une petite idée de ce qui, statistiquement, de ce qu'on attend dans les galaxies. Ici, vous avez une galaxie avec en couleur la quantité de colonne densité de H1 qui va être mesurée. Vous voyez qu'on peut mesurer assez loin de la galaxie. La quantité de métaux, donc les systèmes métalliques que vous allez pouvoir observer en absorption, en fonction de la distance au centre de la galaxie. Et puis ici, la quantité en métaux en fonction de la distance. Alors évidemment, ici, c'est beaucoup plus important lorsque vous êtes à faible paramètre d'impact. Et puis, ici, c'est le nombre de la couverture que vous avez en fonction de la masse stellaire de la galaxie. Donc vous voyez que les grosses masses stellaires vont avoir une couverture en DLA assez grande. Et pas seulement, en fait, on croyait que les DLA étaient que des disques de galaxies que l'on croisait par la ligne de visée de quasar. Eh bien, dans ces simulations, ils ont pu montrer que 60% étaient en effet des grosses galaxies, mais 40% étaient dans le halo, soit des outflows, des gaz qui étaient éjectés, soit peut-être des satellites naines qui sont autour des grosses galaxies et qui émettent quand même de ces DLA. Donc ces DLA, maintenant, on commence à comprendre, même si on n'a pas l'association à chaque fois qu'on a un absorbant, d'où elles pourraient venir. Alors maintenant, il y a une méthode qui a été développée récemment, en 2018, par Kakiichi et al. Et d'autres, qui essaie de se servir des absorbants pour détecter ces fameuses petites galaxies qui vont rayonner l'univers, mais qui ne peuvent pas être détectées, parce que pour l'instant, elles sont en dessous de notre seuil de détection. Donc le principe est le suivant. Vous avez un quasar qui est là juste pour nous illuminer une ligne de visée, et on va pouvoir voir... Alors ici, on est dans la période de rayonisation, donc on a un fossé ou alors une prairie, hein, puisqu'on appelle ça une forêt, on va appeler ça une prairie Lyman alpha, c'est-à-dire qu'un absorbant total, ça veut dire que la plupart du milieu intergalactique est neutre. Il va complètement absorber le rayonnement du quasar qui est ici en Lyman alpha. Donc ce qu'on voudrait, c'est... Alors ici, dans le champ, vous avez un quasar en bleu ici, et vous avez aussi d'autres galaxies en rouge qui sont ce qu'on appelle les Lyman-Bragg galaxies ou les galaxies à cassure de Lyman, où on a pu quand même détecter ces galaxies, même dans la période de réionisation. Il y en a une ou deux, pas beaucoup. Et celles-ci ont beau ioniser un petit peu leur environnement, ne sont pas suffisantes pour ioniser l'univers. Donc on imagine qu'il y a des tas de petites galaxies qu'on ne voit pas, mais ces petites galaxies, elles sont grégaires, donc elles vont sans doute être associées à ces grosses galaxies. Donc on va essayer de porter dans cette dimension, puisqu'on a une trace de l'univers dans cette dimension-là, toutes les petites galaxies que l'on voit, et on va voir si autour on ne retrouve pas une transmission qui serait due au fait que les petites galaxies ont rayonisé leur voisinage. Donc ça marche, ça a l'air de marcher. Vous voyez par exemple ici, vous avez le quasar, donc la distance ici, l'effet de proximité du quasar. Et puis vous avez autour, vous avez quelque chose qui est complètement une prairie, complètement absorbée. Et puis vous commencez à avoir une forêt, donc une transmission. Et la transmission veut dire que vous avez des parties qui sont ionisées, qui ne sont pas complètement neutres. Et donc, c'est cette ionisation qui serait due aux petites galaxies qu'il y a autour des galaxies qu'on a pu voir, qui sont LBG. Alors, c'est la couleur de ces galaxies, elle indique la luminosité UV. Ici, en rouge, c'est les plus fortes. Et puis, on a vu qu'on avait la position de ces galaxies à deux dimensions. Donc, on peut calculer leur distance réelle aux absorbants. Leur distance, c'est la distance à deux dimensions qu'on voit dans le ciel, plus la distance en redshift, qui est parallèle sur la ligne de visée. Et cette distance-là, vous pouvez en prendre en compte pour savoir si elle va vraiment ioniser, et si tout ce qui est autour va ioniser. Et en effet, on arrive à en conclure que s'il y a des petites galaxies, quel est leur taux d'échappement? Si elles émettent beaucoup d'UV qui ionise, est-ce qu'il va y avoir de l'échappement? Et c'est ça qui est important. On ne sait pas exactement quels sont les photons UV qui sortent. Alors ici, vous avez un espèce de fit ici, de la transmission, hein, exponentielle de moins taux, c'est l'absorption, donc 1 moins cette grandeur, c'est la transmission, et pondéré avec un poids qui est l'inverse du bruit. Donc ça, c'est un problème technique ici. Et finalement, ils ont pu en déduire la fonction d'échappement, cette fameuse fonction d'échappement, qui se retrouve dans la période de réionisation assez élevée, 8%. Donc ces petites galaxies auraient une fraction d'échappement de l'UV qui serait assez grande. Alors, ces fractions d'échappement et d'ionisation par rapport à l'UV qui, lui, à 1500, n'ionise pas, mais c'est le rapport entre ce qui ionise et ce qui n'ionise pas. Donc c'est déjà une information qui a été obtenue par ces absorbants. Gilly et al. Ont montré qu'il y avait tout de même autour de ces LBG, c'est-à-dire les galaxies qui sont quand même des groupes et des amas, il y avait une proximité de gaz neutre. Alors pourquoi? Parce que dans le filament cosmique, dans tout ce web cosmique, on s'attend bien à ce que les filaments soient les parties les plus denses, donc c'est les parties qui restent le plus neutres le plus longtemps. Et ce sont les vides qui s'ionisent le plus vite. Il y a moins de recombinaison. Donc la recombinaison est en rho à la densité au carré. Donc ici, on s'attend à trouver un petit défaut de transmission. La transmission, c'est ce rapport qui est transmis sur le continuum avec moins 1. Si c'est 0, on ne transmet rien du tout. Et puis, si c'est négatif, ça veut dire qu'il absorbe. Donc il y a encore du H1 au voisinage, en fonction du rayon ici, et puis ensuite 0. C'est ce qu'avait trouvé Bielby et al. Et d'autres travaux du même genre, cette fois-ci Meyer et al., ont essayé d'observer cette fois-ci 25 quasars et les raies de métalliques de C4. Donc c'est l'absorbant C4 avec le redshift qu'ils ont observé ici. Vous voyez la gamme de fréquences qu'ils ont pu échantillonner. En couleur, vous avez la quantité de ions C3, hein, puisque C4 c'est l'ion 3 fois ionisé. Et le bleu, donc c'est le plus dense. Et la taille, c'est la largeur Doppler de la raie. Donc les petits verts, c'est les plus petits, et les gros bleus, les plus gros. Donc vous voyez qu'on en a quand même un certain nombre d'absorbants. On peut faire des statistiques. Et donc, ils ont fait ces statistiques-là, toujours la même méthode. Autour des galaxies, des grosses galaxies, on essaie de voir la transmission en regardant ce qui remonte en Lyman alpha. Et donc, on voit tout cet effet-là, proche d'une grosse galaxie, on a du H1, et puis ensuite ça remonte et on rayonise. Donc là, on transmet beaucoup plus, Et c'est cet excès-là qui montre qu'on a sans doute derrière des petites galaxies qui vont rayonniser l'univers. Donc ici, on a aussi comme résultat de l'expérience le nombre de ces quatre en fonction du redshift, ce qui est intéressant. Et la même chose, mais cette fois-ci, vue non pas en log, ici c'était en logarithme, mais ici c'est en linéaire. Ça a un aspect un peu différent, mais ça permet de faire fitter plusieurs valeurs de la ionisation ici, et on voit que la jaune ne correspond pas, mais entre 25 et 24, on arrive à reproduire le taux d'échappement de ces petites galaxies que l'on ne voit pas. Donc on arrive à traverser l'obstacle de galaxies qui sont trop petites pour qu'on les voit. Alors je vais en finir avec l'espoir de détecter de l'absorption à 21 cm de longueur d'onde, hein, quand on est dans la période de l'aube cosmique, là, Z égale 12, où pratiquement tout est neutre, H1 neutre, on a la raie fondamentale de H1 à 21 cm que l'on va pouvoir décaler vers le rouge jusqu'à 2 mètres de longueur d'onde et peut-être faire le même jeu que la forêt Lyman alpha, mais cette fois-ci avec la raie 21 cm. Alors, c'est beaucoup plus difficile parce que celle-là, c'est une raie permise qui est très facile à absorber. Ici, ce n'est pas du tout pareil. Le coefficient d'Einstein est beaucoup plus faible. Et donc, on s'attend à une petite absorption. Ça, c'était ce qu'avait calculé Carilli il y a très longtemps. Et on voit que l'absorption est très faible. Alors, ça a été quand même estimé un peu plus sérieusement avec des simulations de rayonisation. Ici, vous avez la température à 14 de redshift, 9 et 7. Vous voyez comment la température et les zones ionisées grossissent. Et ici, c'est en H1. Le H1 devient ionisé, donc on voit bien le bleu c'est ionisé et le rouge c'est le H1. Alors évidemment ça dépend beaucoup, et ça on n'en sait rien encore, si les premières sources d'ionisation vont chauffer le milieu ou pas. On sait qu'il va y avoir des AGN par exemple qui ont des rayons X qui vont traverser le milieu sans l'ioniser mais qui vont le chauffer. Et à ce moment-là, si on chauffe, on n'aura plus d'absorption du tout. On va chauffer dessus, on a plutôt l'émission, on va le trouver dans les cartes d'intensité H1 mais pas en absorption devant le quasar. Donc pour avoir de l'absorption devant le quasar, il faut quand même qu'on n'ait pas trop de chauffage et qu'on puisse, selon la ligne de visée, voir des nuages de ce type qui vont absorber. Alors quand on essaie de calculer la quantité d'absorption qu'on va avoir, eh bien ça dépend du modèle, dépend des recettes et du chauffage, etc. Deux travaux l'ont essayé d'estimer. L'un est assez pessimiste, on a une épaisseur optique de 10-3 à 10-2, ce qui est très faible, et l'autre est plus optimiste, 10-1 jusqu'à 1. Donc là, on pourrait le détecter peut-être, hein, quand on regarde ce qui est attendu. Alors ici, c'est en fonction de la densité comobile volumique du H1, et puis l'épaisseur optique. On voit qu'il y a deux composantes, hein, dans tous les modèles, il y a deux composantes, il y a une composante de gaz relativement dense et froid, et puis ici, c'est du gaz qui est partiellement et très partiellement ionisé et très chaud ici. Sans doute, on ne va pas l'observer du tout, mais celui-là, on peut avoir une chance de l'observer, soit 14, 9 ou 7. Et quand on regarde ce que ça donne en spectre, alors vous voyez ici, on a 1 normalisé au continuum, ici 0,95, donc 5% d'absorption. Ça, ce serait possible si on n'a pas trop de bruit. Ici, dans ce spectre, il n'y a pas de bruit du tout, c'est tout à fait théorique. Et puis ici, on a 0,999 au lieu de 1, c'est-à-dire 1 pour 1000. Donc certainement, ce sera impossible d'observer. Quand on en rajoutera le bruit, ce sera impossible. Donc ce serait possible, mais à des redshifts assez grands. Le nombre d'absorptions auquel on s'attend, c'est à 8, par exemple. Et là, on aurait du gaz froid et du gaz possible. Donc on attend, mais pour l'instant, on n'est pas si optimiste que ça. Donc en résumé, j'espère que je vous ai montré que les absorptions devant les quasars était une façon d'échantillonner le milieu intergalactique, soit que les quasars soient avec les sursauts gamma d'ailleurs, de sonder ce milieu intergalactique que l'on ne connaît pas, qui contient la plupart des baryons de l'univers, et on a de multitudes de composants, des nuages de forêt Lyman alpha, qui sont les filaments cosmiques, qui sont relativement bien connus à bas redshift, et à plus haut redshift, ce serait intéressant de les avoir. Des systèmes intermédiaires, des régions complètement saturées qui sont les galaxies, et puis les raies métalliques qui nous renseignent sur la métallicité. Donc tout ceci, bientôt, va nous permettre de sonder les galaxies qui vont rayonner l'univers entre 5 et 8. Donc je m'arrêterai là. Merci.